premières années de création sont tout d'abord inspirées par la colère, par des œuvres qui font la guerre, sans doute à l'homme, aux hommes, sans doute au père, qu'il a violé à l'âge de 12 ans, raconte-t-elle dans son livre « Mon secret » paru en 1994. Ensuite, amuser le public, le séduire, le divertir en permanence. Telle est l'application des méta-mécaniques de Jean Tinguely et des nanas, cracheuses de jets d'eau. Il y a toujours chez Nikita Saint-Phal une mise en scène de cirque ou de carnaval avec les couleurs simples du bonheur et de l'enfance. L'auberge du Cheval Blanc dans l'Essonne, où nous la retrouvons, est à son image splendidement féerique et baroque.
Quand j'ai commencé à tirer, avant de faire le tir, j'ai commencé à faire des collages. Et j'ai aussi rencontré l'œuvre des nouveaux réalistes, Armand, Spoerry, Jean Tinguely, je le connaissais déjà depuis un certain nombre d'années. Lui et Eva, on était amis avec Harry et moi. Mais disons que j'ai été fascinée par leurs œuvres. Et eux, ils aimaient bien tous mes collages. Jean a toujours été un fervent de mes anciennes peintures. Et sa femme Eva Appli a été très importante pour moi. Il m'encourageait. Jean a connu mes premiers dessins quand j'étais toute jeune, depuis que j'ai vu Gaudi pour les grands monuments. Il a toujours été... m'a dit, mais tu peux les faire. Rien, il faut juste attendre un peu. Et donc j'avais quand même des gens autour de moi, que ce soit Harry Matthews, que ce soit John Ashbery, que ce soit mon amitié, parce que c'est seulement plus tard que Jean et moi nous sommes mis ensemble après qu'on était séparés. Et plus tard, à travers le travail, qu'on est tombés amoureux dans l'année 60 et qu'on a commencé à vivre ensemble. Mais on se connaissait déjà depuis longtemps. Mais donc, j'avais des gens autour de moi qui m'ont toujours secondé, malgré que beaucoup de peintres officiels de l'époque, de mes contemporains, étaient contre. On n'aimait pas ce que je faisais. On me disait, va à l'école, tu ne sais pas peindre, etc. Ça m'a aidé. On a toujours besoin d'avoir... On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes, mais on a besoin d'avoir quelques personnes qui croient en...
J'ai lu récemment que la femme qui préparait votre soupe passe son sein, la femme de Larry Rivers, oui, aurait été à l'origine des nanas.
Oui, c'est absolument vrai. C'était une époque géniale, les années 60. On ne peut même pas, aujourd'hui... C'est très difficile de la décrire pour les jeunes. On ne peut pas enlever les tableaux-tirs de cette époque. Il y avait un air de liberté qui n'existe même pas. Imaginez-vous que moi, j'habitais dans des baraques au milieu de Paris, derrière l'hôpital Necker. On n'avait pas de salle de bain, on n'avait pas d'argent, il fallait voler... il ne fallait pas. Nous volions le charbon des enfants malades pour se chauffer, parce qu'on était tous fauchés. Mais aussi, on pouvait aller dehors, là. C'était comme un jardin au milieu de Paris. Et on pouvait tirer. Je tirais, personne ne disait rien. Mais un ancien flic qui venait trouver ça très marrant, il regardait. Imaginez-vous qu'on pouvait tirer dans une galerie, quand il y avait 22 longs rives, qu'on passait d'une personne à l'autre, qu'il n'y avait pas de réglementation, que les galeries ne pensaient pas qu'au fric. C'était une autre Iris Clair. La galerie J, il y avait plein de galeries qui... c'était très différent, c'était un climat très excitant on avait envie de changer les choses, on croyait qu'on pouvait changer beaucoup de choses. Il y avait une ère de vraiment d'une liberté qu'on ne sent plus aujourd'hui. Tout est beaucoup plus contrôlé, tout le monde a beaucoup plus peur. Les choses qu'on a faites à ce moment-là, on ne pourrait jamais plus les refaire. Alors imaginez-vous que j'étais là, je pouvais sortir mon tableau-tir, les gens qui étaient autour venaient regarder, trouvaient ça très marrant, ou ils n'aimaient pas, s'ils n'aimaient pas, ils partaient.
Mais comment est née la nana à travers Clarisse ?
Ah bon, mais ça, c'était beaucoup plus tard. Alors, vous sautez, là. J'étais, moi, dans les années 60, le tir, l'impasse Ronsin, Larry et Clarisse. Eux, ils avaient les seules toilettes à l'impasse Ronsin. Et ils avaient aussi... Clarisse faisait de la cuisine très bonne. Nous sommes très vite devenus grandes amies. Je connaissais Larry déjà avant. Et j'aime beaucoup sa peinture, et je trouve qu'il est très sous-estimé. Les Français ne le connaissent pas. C'est la guerre américaine qui l'a fait. En plus, il a une période que si les Français le montraient, ils adoraient. Il y a toute cette période, les leçons de vocabulaire. Il a fait c'est un peintre inégal et génial.
Mais très grand peintre.
C'est un très, très grand peintre, là. Il le découvre. C'est toujours bien d'avoir les choses à découvrir. On va le découvrir ici un jour. Tout le monde est en train de parler de la révolution de la révolution française qui aura lieu. C'est lui, à mon avis, le seul peintre qui pourrait vraiment assumer de faire un tableau vraiment nouveau, fantastique sur la révolution française.
Absolument.
Comme il a fait sur la révolution russe. J'ai beau crier, mais personne n'a envie de m'écouter. Tant pis pour eux.
Vous serez peut-être entendu.
Je sais pas. Alors.
Alors Clarisse.
Clarisse, sa femme. Elle est devenue non seulement ma meilleure amie, mais elle était géniale. Elle avait, premièrement, elle avait une humour, c'était une femme extraordinaire, elle faisait rire tout le monde. Elle a un rire, on ne peut pas s'arrêter, c'est comme, c'est fantastique. Alors, elle avait cet humour merveilleux, elle nous faisait des soupes. D'abord, Jean était jaloux, il se disait, qu'est-ce que je fous ces gens-là, je les connaissais, ils ne les connaissaient pas. C'était au début, quand je commençais à vivre avec Jean. Alors moi, vers midi, je disparaissais quand je sentais l'odeur de du potage. Alors, quand il trouvait que j'étais là trop longtemps, il tirait le revolver dans mon revolver pour me dire que c'était le moment de revenir, que je faisais pas. Mais finalement, il a été alléché. Il est devenu très ami avec Larry et Clarisse, et on mangeait là tous les jours. J'ai malheureusement fait une chose qui a sérieusement secoué l'amitié. C'est qu'un jour... J'ai oublié, je ne sais pas comment j'ai pu faire une chose pareille. J'avais construit pendant plusieurs jours une énorme construction. À ce moment-là, je travaillais avec l'objet trouvé. Et c'est-à-dire, disons, que j'avais du bois derrière, des panneaux de bois, sur lesquels j'allais à l'abbé Pierre, des endroits comme ça, et on trouvait des choses, mais géniales! Fantastiques sculptures des années 20, de 1900, pour rien. Je faisais une construction, que ce soit un hôtel, que ce soit un sujet assez délirant. Et après ça, quand tout était... je faisais une espèce de rituel de peindre tout en blanc. Et ça devait être absolument blanc. J'étais maniaque sur ce sujet, alors je pouvais repeindre 3-4 fois. Mais le moment que je me suis mis à tirer, j'ai oublié de leur dire. Terrible. Alors c'était sûr, et il faut savoir que c'était des petites baraques. Alors la maison a commencé à trembler, il y avait des grands cris, ils sont sortis, ils ont vraiment eu peur. Ça c'était horrible, je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Bon. Alors l'amitié s'est refroidie pour une semaine, après tout était pardonné. Aussi c'était le jour, malheureusement, que je lui avais demandé de me préparer un petit canon. Alors, j'avais de la poudre noire. Il faut s'imaginer ça au milieu de Paris aussi. Je mettais de la poudre noire dans un petit canon et j'avais un petit sachet dans mon canon où je projetais la peinture sur ces reliefs. Alors, c'était malheureusement aussi le premier jour qu'on a essayé ce canon. Évidemment, les secousses étaient assez fortes et ces baraques étaient assez mal foutues. En tout cas, voilà comment ça se passait un peu à cette époque. C'était très vivant, c'était très chouette, c'était très... Il y avait... Alors, c'est difficile d'imaginer des choses comme ça aujourd'hui, qu'on peut aller tirer dans un musée, que le Stedelijk Museum avait un gardien que j'ai pu déguiser comme un homme en safari, qu'il était d'accord, et qu'il donnait à chaque visiteur pour tirer sur une énorme construction de moi. On avait fait un stand de tir... Panto Sultan était très important parce qu'il a été vraiment un comment est-ce qu'on dit, quelqu'un qui est avant les autres.
Précurseur.
Précurseur. Quand il était directeur au Stedelijk Museum, parce qu'il invitait les artistes, c'était le premier à inviter les artistes à faire des choses dans son musée. Alors, ça, c'était aussi une chose de cette époque-là, que les artistes étaient invités pour faire ce qu'ils voulaient, pour une animation. Il y avait un désir, il y avait un excitement, un désir de vie. Il y avait aussi... Et maintenant, moi, j'ai oublié ça. Mais si vous parliez à ma fille, elle me dira qu'elle a très mal vécu l'époque. Parce qu'elle voyait tout le monde qui se moquait de sa mère, les filles en classe, les journaux qui étaient contre moi, la folle, qu'elle a vécu ça très durement, que c'était épouvantable de voir sa mère insultée dans les journaux. Moi, ça me gênait beaucoup moins. Au contraire, le côté d'être...
Provocateur, iconoclaste.
J'avais déjà eu la mauvaise opinion de ma mère quand j'étais petite. Je suis née au moment de, en 30, pendant la... le crash, comment est-ce qu'on dit ça en français?
C'est le même mot.
Le crash, bon. Alors j'avais apporté tous les malheurs à la famille. Au fond, ça m'a beaucoup servi, la mauvaise opinion de ma mère, qui a changé. Bien sûr, quand je suis devenue célèbre, longtemps après. Mais je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup servi parce que ça m'a aidé à ne pas être... Si on n'a pas la bonne opinion de sa mère, on n'a pas besoin d'avoir la bonne opinion des autres. On peut la supporter, puisque de toute façon, on a une mauvaise opinion de soi-même. Alors donc, on peut supporter si les autres sont contre vous. Et même que ça vous donne une énergie... Et donc, et c'est plus facile de changer de style aussi, comme je l'ai souvent fait, parce qu'on s'en fout quelque part de ce que les autres pensent. On veut faire ce qu'on a envie de faire. Et puis s'ils ne vous suivent pas et s'ils ne vous aiment pas, tant pis. Mais si on a toujours eu la bonne opinion de tout le monde, c'est plus difficile de s'en défaire. Je crois que ma mère m'a énormément aidée. Avec sa résistance, qu'elle fermait les yeux quand elle venait me voir, mes tableaux, tout ça. Je crois qu'elle a été très importante et très utile. Je suis très contente que je n'ai pas été... Il faut se rappeler aussi que c'était l'époque du... Quand moi, je suis née en 1930. Alors, ça veut dire que quand j'avais 18 ans, qu'est-ce que je devais faire? J'étais élevée pour le marché du mariage. Aujourd'hui, ça semble très difficile à imaginer pour les jeunes que ça existait. Combien ça a changé? Moi, j'étais une féministe ardente.
Mais vous n'êtes pas laissé faire par rapport à votre famille, quand même.
Non, non, je ne me suis pas laissé faire du tout. Mais je vais dire que c'était... Je me suis quand même mariée. Je n'aurais pas eu l'idée d'aller vivre avec Harry Mathieu. Ça ne pouvait pas se... Je veux dire, ce n'était pas dans les... Il faut voir que... Il faut toujours se remettre dans l'époque. On s'est mariés quand même. On s'est échappés. On avait tous les deux 18 ans. Les parents étaient furieux, moi, mais... Il faut se remettre dans le temps, parce que ça colore beaucoup. Et pour moi, à cette époque-là, je voyais que ma mère était la reine de la maison. Son domaine, son royaume, c'était l'appartement, la cuisine et les enfants. Et moi, ça me semblait très maigre. Je voulais un domaine beaucoup plus vaste. Et j'avais 12 ans, et je me suis dit, moi... Tout ce que mon père me faisait, c'était mystérieux. Premièrement, parce qu'il ne racontait pas tout ce qu'il faisait. Il faisait des voyages. Il travaillait à la bourse. Ma famille était française. On habitait à New York. Et donc, on a vécu de très près le drame de la guerre d'une manière sentimentale. Parce que tous les frères, les sœurs de mes parents étaient en France. Et donc, c'était très présent, disons. Je n'ai pas été élevée comme une Américaine. J'étais quand même élevée comme une Française à New York. Autre grand, grand avantage. Aujourd'hui, me voilà sans racines, sans pays. Et ça me donne une énorme... J'aime la France comme une étrangère aime la France. Je me rappelle, après la guerre, à 15 ans, de revenir à Paris... Et de sentir tous ces merveilleux fromages, tout. J'aime Paris, mais avec une passion, comme une étrangère peut l'aimer. Mais en même temps, je ne suis pas américaine. Si je suis en Amérique, je ne suis pas vraiment américaine. Et d'ailleurs, grand refus, parce que je suis retournée, je suis le traître pour les Américains, parce que dès que j'ouvre la bouche, je suis américaine. Mais j'ai beaucoup, beaucoup profité de cette biculture, de jamais être à l'aise dans aucun milieu, de toujours être l'étrangère. Encore en Italie, maintenant je suis en Italie, je suis folle de l'Italie, j'adore l'Italie, je découvre un nouveau pays, une nouvelle culture. Pourquoi je peux m'adapter tellement bien? Parce que je ne suis vraiment de nulle part.
Le féminisme, enfin l'obsession du féminisme est née de l'échec, entre guillemets, du premier mariage avec Henri Matthews?
Ah non, absolument pas. J'étais féministe à l'âge de 12 ans. Ma mère avait un placard où elle rangeait le linge. Et je me rappelle un jour, je la regardais ranger, je dis, moi, je ne ferai jamais ça quand je serai grande. Jamais, jamais, je ne compterai du linge. Elle m'a giflé. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, on giflait les enfants facilement. On n'était pas dans l'époque libérale. Alors moi, je recevais pas mal de claques et ils n'étaient pas spécialement monstrueux. Ça se faisait comme ça à l'époque. Et peut-être, c'était pas si mal que ça. J'en ai survécu, en tout cas. Alors, je me suis toujours rappelée de ça. Et d'ailleurs, et plus tard, j'ai préféré avoir mon linge volé que le compter. J'étais vraiment... Je ne voulais pas qu'on me donne un rôle. J'ai refusé mon rôle. Déjà en tant qu'enfant, je ne voulais pas ça. Je voulais avoir le choix de mon rôle. Et donc le choix, c'était pour moi une chose essentielle. Le choix de Harry Matthews était aussi le choix d'un homme, non seulement qu'il était génial et que je l'aimais follement, mais aussi... Il avait ce qui était très extraordinaire à ce moment-là. Il a tout partagé avec moi, s'occuper des enfants, faire le marché. Moi, je faisais la cuisine parce que je préférais lui. Et ça ne lui faisait rien de faire l'aspirateur. Mais il fallait voir ma mère qui venait, qui s'arrachait les cheveux. Il te vole ton rôle. C'est pas possible. Alors pour moi, c'était impossible de vivre avec un homme qui n'était pas un... Ça n'aurait pas été avec nos caractères, qui ne voulait pas jouer un rôle non plus, qui était déterminé par des autres pour lui et qui avait envie de connaître aussi sa féminité. Alors je dirais que j'ai toujours été féministe, naturellement, et malgré que je n'ai pas joint un mouvement féministe. Kate Millett... Agnès Varda, Jane Fonda, ils m'ont demandé de joindre le mouvement. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, pourquoi je le joindrais maintenant? Je me sens, à ma manière que j'ai fait, que toutes mes choses monumentales, dans un certain sens, sont aussi pour prouver qu'une femme peut travailler à cette dimension. Et que je n'ai pas envie de me joindre à un mouvement. Quoi qu'il soit. Je peux avoir mes préférences, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour le mouvement féministe quand il a apporté beaucoup de choses. Après, comme tous les mouvements, les choses... Et puis le féminisme a existé depuis toujours, il n'est pas seulement né dans les années 60, il a existé depuis le temps éternel, et il y a des moments où il est plus passif, il y a des moments où il revient, c'est comme une musique, un refrain. Maintenant, on a gagné certaines victoires. Alors, on n'en parle plus pour le moment, mais ça va revenir plus tard, parce qu'il y aura d'autres victoires à gagner. Et alors, je vois ça comme une... Et j'ai pensé qu'à ma manière, j'étais profondément féministe, que je le serai toujours, que ça a été un grand moteur dans ma vie, une chose qui m'a poussée à... Et si on regarde de ma génération, j'ai peut-être réalisé les réalisations les plus monumentales. Et aussi, il faut voir que l'époque a permis à une femme, pour la première fois. Rappelez-vous qu'au XVIIIe siècle, les femmes avaient la défense de sculpter, parce que ça leur donnerait des mauvaises idées. Rappelez-vous que Camille Claudel a passé 30 ans, parce qu'elle avait enfermé, parce qu'elle avait plus de talent que Rodin, et c'était insupportable. Il y a eu beaucoup de choses. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. J'ai toujours été très conscient de ça. Très conscient de se vouloir m'exprimer d'une manière monumentale. Après, je me suis rendu compte que quelque part, j'avais triché, dans le sens, mais inconsciemment, et très bien, heureusement, peut-être si j'aurais été conscient, j'aurais pas pu le faire. Alors, mon inconscient m'a poussé, par exemple, quand Eddie Kolek m'a demandé de faire un jardin d'enfants à Jérusalem, il s'attendait à quelque chose de beaucoup plus petit. Mais je finis par faire quelque chose de 10 fois plus grand qu'on s'attend ni qu'on me demande. Mais c'est pas tellement que j'avais l'impression que j'allais les rouler, mais c'est mon inconscient qui l'a fait, que bon, c'est devenu... Je disais, non, allons-y, on va le faire plus grand. Voilà. Et alors, finalement, pas seulement... D'ailleurs, ils étaient ravis, après. Mais même dans mes jardins du tarot, les premières, je pensais que c'était les plus grands, mais après, les autres finissent toujours par être... Alors, j'ai la folie des grandeurs. Mais j'ai la folie des grandeurs féminines, c'est différent. Mon monde, il est courbe, il est rond, c'est un monde féminin, et on voit qu'est-ce que c'est la folie des grandeurs d'une femme qui, enfin, a attendu 20 siècles pour pouvoir se manifester comme je le fais aujourd'hui. Oh, je paye ça, certainement, par une certaine solitude aujourd'hui. Tout se paye, mais ça vaut le prix. Parce que je ne fais pas seulement pour moi, je fais pour toutes les femmes. Et d'ailleurs, une des choses qui m'a fait très plaisir, des fois quand j'ai une exposition, il y a des femmes qui me disent « Merci, j'ai l'impression que vous faites ça pour moi aussi. » Pour moi, je suis très touchée par un tel discours. Parce que je sens ça très...
Qu'est-ce qu'il a,
je sens l'histoire.
Votre nana, elle est libérée ou... Parce qu'elle est à la fois libérée et physiquement provocante. Donc elle a quand même des arrière-pensées.
Les nanas sont sorties, c'était les premières sculptures que j'ai faites. Je les ai faites avec ma fille, à vrai dire. Elle n'est pas là, elle vient tout à l'heure, Laura. Elle était là, on s'est... Et elles sont nées d'abord, il y avait eu, après le tir, il y avait eu les autels, et après il y avait eu les femmes qui accouchent, les mariées, les sorcières, les chœurs, c'était des reliefs. Et subitement... sont sorties ces femmes. La première que j'avais faite, c'était quand Clarisse Rivers était enceinte de sa deuxième fille. Et Clarisse, ma grande amie, que j'adorais, j'étais folle d'elle, m'a inspiré les nanas. Elle était vraiment, elle avait des très grands seins, une taille très fine, des hanches. Elle était un peu comme une nana, mais elle était glorieuse, elle était très amusante. Et j'ai commencé à faire comme ça son portrait, en grillage. Après, les premières ont été recouvertes de laine, de tissu. Mais chaque fois que je faisais une nouvelle, une des choses, j'ai toujours été fascinée par la technique. La technique, alors chaque nouvelle chose presque amène une nouvelle technique. Là, c'était très compliqué parce qu'il fallait les faire sécher. Et je les collais, je mettais du grillage. Il n'y avait pas d'armature dedans. Et donc, je les faisais, elles n'étaient pas très grandes. Je les faisais avec du grillage, que je collais ces bouts de grillage l'un à côté de l'autre. Après dessus, pour que ça tienne, déjà ça tenait, il fallait bien que ça tienne, il fallait parce que je tordais les petits fils de fer les uns sur les autres, et puis je les attachais avec des bouts de fil de fer, parce que c'est seulement pas mal plus tard que j'ai eu mon premier assistant. À ce moment-là, je travaillais seule. Non, sauf que je vous ai dit, j'avais ma fille qui avait 14 ans, m'aidait à ce moment-là. Et donc... pour tenir la chose, je mettais des grands draps. Des fois, je déchirais les draps si je n'avais pas ce qu'il me fallait. Je ne me suis toujours pas gênée de me servir du matériel qui traînait autour. En tout cas, disons que je prenais des tissus comme des draps. Je les trempais dans la colle, de colle de lapin qu'il fallait chauffer. Ça puait, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Mais vraiment, c'était les gens qui venaient. Ils disaient que ça les gênait, mais moi, bon, quand on est dans quelque chose, rien ne vous dérange. Et donc, après, il fallait les sécher. Et vous connaissez bien notre temps merveilleux parisien, comment les étés peuvent être humides, ça ne séchait jamais. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas de chauffage central, je ne savais pas comment les sécher, alors finalement, je faisais un trou dans les nanas et je mettais l'aspirateur dedans, qui propulsait de l'air, et je finissais par les sécher. Alors, une fois qu'il y avait la couche avec des petits morceaux de drap trempés dans la colle qui lui donnaient sa peau, la peau, Après venait la décoration, qui était de la laine colorée, etc. Plus tard, on m'a dit que mes nanas ressemblaient aux premières sculptures de femmes.